Alors, j'aimerais aujourd'hui lire et commenter quelques textes du maître indien Nisargadatta. Dans l'introduction à son livre Je suis, il est écrit que si l'on avait demandé à Sri Nisargadatta Maharaj de nous raconter sa vie, ce dernier aurait certainement répondu qu'il n'y a rien de tel qu'une naissance, une croissance, et que rien n'est jamais arrivé. Nisargadatta est né à Bombay en 1897. Ses parents étaient de simples fermiers, et l'on dit que son enfance s'est écoulée dans une ambiance laborieuse et religieuse. Après le décès de son père, il quitta la terre familiale à l'âge de 20 ans et adopta la vie d'un commerçant. L'ouverture d'une échoppe où il vendait des petites cigarettes indiennes fut bientôt suivie de plusieurs autres. Il se maria et eut un fils et trois filles. Un jour, à l'âge de 37 ans, l'un de ses amis lui fit connaître celui qui allait devenir son guide spirituel. Ce dernier encouragea Nisargadatta à ne s'occuper que d'une seule chose. Tu n'es pas ce que tu crois être. Trouve ce que tu es. Observe le sens de « je suis ». Découvre ton véritable soi. Tu n'es pas ce que tu crois être. Il en va de même pour nous. Cela ne veut pas dire que nous devions modifier nos croyances au sujet de ce que nous sommes. Ce serait là simplement substituer une idée à une autre. Non. Cela signifie simplement, vous n'êtes jamais ce que vous pensez. Permettez-moi de simplement relire cette phrase. Vous n'êtes jamais ce que vous pensez. C'est là la direction à suivre lorsque l'on pratique avec le koan qui suis-je. Toutes les réponses qui apparaissent dans notre esprit doivent un jour ou l'autre être abandonnés afin que la vérité puisse enfin se révéler. Nisargadatta dira plus tard, « J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Dès que j'avais du temps, je le consacrais à m'observer en silence. » Il dira également, « Mon maître m'a dit un jour, « Tu es la réalité suprême. » Et je lui ai fait confiance. Je l'ai cru. Il ne lui fallut que 3 années pour connaître un éveil profond et réaliser son être véritable. À l'âge de 40 ans, un an après le décès de son maître, Nisargadatta abandonna sa famille et ses affaires et mena une vie de moine errant à travers l'Inde. Une rencontre avec un autre disciple de son maître l'amena cependant à adopter une autre voie. Il vit les défauts d'une vie totalement détachée du monde et tout à l'inverse, la fécondité qu'il y a à vivre une vie active mais dénuée de passion près des autres dans le monde. À son retour à Bombay, Maharaj trouva toutes ses échoppes à l'abandon, sauf une. Dans l'intérêt de sa famille, il reprit le travail, mais consacra la plus grande part de son énergie au travail spirituel. Au fil des années, il perdit sa femme et 2 de ses filles. Il construisit au-dessus des 2 petites pièces où il vivait un endroit pour la méditation, et bientôt les gens furent attirés vers lui. Tous les jours, Nisargadatta écoutait ceux et celles qui s'adressaient à lui. Des gens aux prises avec des problèmes personnels, qu'ils soient spirituels, intellectuels ou simplement affectifs. Son fils prit sa succession dans le commerce des cigarettes et Maharaj put finalement consacrer tout son temps à ses rencontres. Le livre « Je suis » présente les conversations qu'il a menées avec ceux et celles qui l'ont visité. À partir de 1980, Maharaj, qui était alors atteint d'un cancer, écourta sensiblement les entretiens qu'il accordait. Il ne répondait plus qu'aux questions qu'il jugeait essentielles. Et l'on dit que bien peu de gens se sont alors aventurés à poser des questions. Dans son livre « Les Orients de l'être », Ramesh Balsekar, qui fut l'un des proches disciples de Nisargadatta et l'un de ses traducteurs auprès de ses visiteurs anglophones et européens, raconte les derniers instants de la vie de son maître. Et je cite. Mardi, 8 septembre 1981. Quand je suis arrivé chez lui ce matin, comme d'habitude, un peu avant 10 heures, j'ai pensé que Maharaj semblait mieux que la veille. Son visage avait une meilleure couleur et ses yeux étaient plus vifs. Je lui dis que je repasserai en fin d'après-midi et il en parut satisfait. Comme je partais, Maharaj dit qu'il avait sommeil et allait se reposer un moment. Vers 18h30, comme je m'apprêtais à partir pour la demeure de Maharaj, je reçus un appel téléphonique, m'informant que son état était très inquiétant. Je me précipitai chez lui et le trouvai sous oxygène. Ses yeux étaient ouverts, mais avaient une expression vide. Il respirait à grande peine, et la fin ne semblait plus très éloignée. De plus en plus ténue, sa respiration finit par s'arrêter totalement à 19h32. Maharaj avait accompli la transition du relatif à l'absolu le plus aisément et le plus paisiblement du monde. Le lendemain, à l'issue d'une cérémonie simple mais émouvante, le bûcher funéraire fut allumé par le fils de Maharaj. La forme physique du maître se fondit dans les éléments dont elle était constituée. En dire davantage sur le maître serait à la fois superflu et déplacé, et irait totalement à l'encontre de l'enseignement de Maharaj. La vérité doit être intuitivement aperçue. Exprimée, elle devient un concept. Fin de citation. Passons maintenant au texte. Un jour, Nisargadatta répondit à l'une des personnes qui l'interrogeait, et je cite, « Il n'y a que la vie. Il n'y a personne pour la vivre. La vie est sans contrainte et libre. Contemplez la vie en la regardant comme infinie, non divisée, toujours présente et active, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes un avec elle. Il n'y a que la vie, il n'y a personne pour la vivre. Ne croyez pas aveuglément ce qui est dit ici. Nisargadatta nous lance un défi, comme le font si souvent aussi les maîtres zen, en utilisant les koans pour nous aider à aller au-delà de nos réponses toutes faites et éveiller en nous ce que dans le zen, l'on appelle le grand doute. Maharaj sait très bien, pour l'avoir vécu lui-même, que nous abritons dans notre esprit des convictions arrêtées, en croyant par exemple que nous sommes quelque chose, une personne, une âme, un individu, un moi, un je, peu importe ici les mots que nous utilisons, et que ce quelque chose que nous sommes est séparé du monde et des autres. C'est là le fondement même de notre pensée dualiste habituelle, notre mode de pensée de tous les jours, pourrait-on dire. C'est aussi la source d'un malaise profond dans notre vie. Nisargadatta nous invite à examiner de près ce qui nous semble si évident, à le questionner de fond en comble, à nous montrer curieux et intéressés, démêlant le vrai du faux dans ce que nous tenons pour acquis. Lorsque, par exemple, nous restons assis longtemps en zazen et que la douleur apparaît dans nos jambes ou notre dos, qui ressent cela? Y a-t-il là quelqu'un ou quelque chose qui ressent cette douleur? Bien sûr, n'est-ce pas? Comment en douter? C'est vous, c'est moi. Cela nous semble si évident. Il faut parfois s'asseoir en zazen pendant de longues années. Avant de commencer à voir qu'éprouver de la douleur, c'est déjà ressentir. Et qu'entre les deux, il n'y a absolument personne. Aucune séparation. Douleur et ressentir sont un. M. Lowe nous demandait parfois, lorsque l'oiseau chante, où êtes-vous? Le chant de l'oiseau, c'est déjà entendre. Et entre les deux, il n'y a personne. Encore ici, aucune séparation. Le chant de l'oiseau et entendre sont un. Abandonnez l'idée que vous êtes ce que vous pensez être, nous dit encore Nisargadatta. C'est en vous imaginant séparés que vous avez créé le fossé. Vous n'avez pas à le traverser. Il vous suffit de ne pas le créer. Tout est vous, tout est vôtre. Il n'y a personne d'autre. Nous avons pris l'habitude de créer de toutes pièces un je personnel et nous l'insérons là où il n'y a personne. Il n'y a que la vie. Il n'y a personne pour la vivre. Et Nisargadatta continue en disant: n'être rien, ne rien posséder, ne rien garder pour soi-même, c'est le plus grand des dons, la générosité la plus élevée. Le renoncement est le premier pas. Mais le vrai renoncement, c'est de réaliser que nous n'avons à renoncer à rien, car rien n'est nôtre. Qu'avons-nous à perdre? Il n'y a en nous personne pour posséder quoi que ce soit. Et que pourrions-nous donc vraiment posséder, alors que d'instant en instant, tout s'écoule sans cesse? Qu'y a-t-il hors de nous? Et de quoi manquons-nous? Nous demande Maître Aquin dans son chant du zazen. Le plus grand des dons, la générosité la plus élevée, c'est de renoncer à prétendre que nous sommes quelque chose. Et de voir qu'en renonçant à cette illusion, nous ne renonçons à rien, sinon à notre propre souffrance et à celle que nous créons pour les autres et le monde. Jeff Shore, qui est revenu nous visiter en juin dernier, a déjà écrit: lorsque vous êtes vraiment sans soi, vous voyez clairement que tout ce qui existe est sans soi. La précieuse dignité de chaque chose vous est alors pleinement révélée. Nisargadatta poursuit en disant, et je cite, « Tout ce que vous avez à faire est de comprendre ce point central. La réalité n'est pas un événement qui se produit, et tout ce qui se produit, tout ce qui vient et va n'est pas la réalité. Voyez simplement l'événement en tant que tel, le transitoire comme transitoire, l'expérience comme simple expérience, et vous aurez accompli tout ce que vous pouvez. Vous devenez alors vulnérable à la réalité. Vous ne portez plus d'armure contre elle, comme lorsque vous êtes convaincu que la réalité est une expérience ou un événement. » Fin de citation. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait le philosophe grec Héraclite. Mais on peut aller un peu plus loin et voir que l'on ne peut même pas se baigner une seule fois dans le même fleuve, puisque celui-ci change sans cesse et n'est jamais le même d'un instant à l'autre. Où pourra-t-on jamais trouver un fleuve qui ne s'écoule pas? Les fleuves ne sont jamais immobiles, sinon dans les pauvres mots que nous utilisons pour en parler. Les mots du langage épinglent l'expérience, comme on épingle un papillon mort. Dans nos mots, les fleuves se tarissent inexorablement. Les Argalata nous rappellent que l'impermanence ne peut jamais être saisie et que les choses de la vie s'écoulent sans cesse. Où pourrait-on y trouver la moindre réalité? C'est comme si non seulement le fleuve s'écoulait, mais aussi ses berges, son fond, ses sédiments et tout le paysage alentour. Le ciel tout entier avec tous ses oiseaux et ses nuages. Rien n'est immobile un seul instant. Et cela est vrai pour chacun d'entre nous. Rappelez-vous Maître Dogen nous disant, l'impermanence, c'est notre vraie nature. Voyez l'expérience comme simple expérience et vous aurez accompli tout ce que vous pouvez, nous dit Mahara. Lorsque vous êtes en zazen, ne refusez pas ce qui se manifeste en vous. Vos pensées, vos sensations, les émotions que vous ressentez, ce que vous imaginez, l'ennui, les regrets, vos désirs, vos peurs, votre cœur qui s'emballe, la douleur qui monte. Laissez tout entrer. Laissez toutes ces expériences vous traverser. Puis sans les repousser, laissez-les s'en aller. Ne les retenez pas. Laissez-les passer. Tout s'écoule sans cesse en vous et autour de vous. C'est vivre, tout simplement. Revenez toujours à votre respiration. Laissez votre attention se poser sur elle, sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Ou si vous travaillez avec un koan, revenez à votre questionnement. Cimentez-vous à votre question. Ne vous en éloignez pas. Vous aurez alors accompli tout ce que vous pouvez, nous dit Nisargadatta. Vous devenez alors vulnérable à la réalité. Vous ne portez plus d'armure contre elle. Il n'y a que la vie, nous dit Maharaj. Il n'y a personne pour la vie. Nous en sommes maintenant au dernier jour de la retraite. L'on dit parfois qu'une retraite comme celle-ci ne se termine jamais. Elle se poursuit dans notre vie quotidienne. Et l'on pourrait même tout aussi bien dire qu'elle vient de notre vie quotidienne. C'est là qu'elle a commencé. C'est là que se trouvent les racines de notre pratique. Dans les contradictions de notre propre esprit, dans cette sorte de mal-être intérieur qui nous accable parfois, et aussi dans ces élans vers l'unité qui montent en nous. C'est là que cette retraite que nous allons bientôt quitter a commencé. Et c'est là que nous allons la retrouver en revenant vers nos proches, nos familles, nos amis, nos collègues. C'est avec eux que nous allons continuer à la vie. Commençons par revenir avec reconnaissance et gratitude envers tous ceux et celles qui ont pris soin des choses à notre place et nous ont permis d'être ici au cours des 4 derniers jours. Rappelez-vous, nos chants avant les repas du matin et du soir commencent par les mots suivants. Nous devons ce repas à des êtres sans nombre. N'oublions pas leur labeur. Lorsque l'on médite sur ces paroles, l'on voit bien que la gratitude qui s'y exprime remonte jusqu'au début du monde. C'est la même chose ici, et nous pourrions tout aussi bien chanter « Nous devons notre retraite à des êtres sans nombre. N'oublions pas leur labeur. » Encore ici, lorsque l'on médite sur ces paroles, l'on voit d'abord nos proches, nos parents et amis, et tous ceux et celles qui nous ont aidés à être ici. Mais en regardant un peu plus loin, l'on voit le Bouddha lui-même, assis en méditation sous un arbre. Puis Maître Dogen, parlant au vieux moine venu acheter des champignons. Nisargadatta aussi, recevant ses visiteurs en Inde et les invitant à tout questionner. Et l'on voit aussi Rinzai, Tokusan, Joshu, Matsu et tous les autres maîtres du Zen. Puis l'on voit aussi tous ceux et celles qui, par leur pratique personnelle de la voie, nous ont transmis, par-delà les millénaires, les enseignements qui nous guident. Je pense à M. Lou, à mes amis Alan, Jean-Claude, Peter et Roger, à Jeff aussi, qui a animé 4 retraites au centre au cours des dernières années. Et il y en a tant d'autres. C'est avec un cœur rempli de gratitude que je m'incline devant eux. Je vous souhaite de tout cœur de poursuivre votre pratique. Continuons, si vous le voulez bien, à pratiquer ensemble. Comme Jeff Shore nous l'a déjà dit, vous avez la chance d'avoir une communauté bien vivante. Traitez-la avec respect. C'est une chose très précieuse.